Histoire de psychanalyse par Jacqueline Miller. Aujourd'hui, les pratiques du tout-dire.
La psychanalyse a eu des effets dans le monde qui vont bien plus loin que ce qu'on peut calculer par des indicateurs numériques comme le nombre des analystes, quelques milliers, le nombre des patients, le nombre des publications, etc. Par exemple, celui qui était encore le cardinal Ratzinger et qui allait devenir le pape Benoît XVI, parlait de la dictature du relativisme. Et je me disais que la psychanalyse devait plaider coupable. Quand quelqu'un s'allonge chez l'analyste, toutes ses valeurs, même les valeurs absolues, sont mises en suspens. Et même si le patient est croyant, et pourquoi pas si l'analyste l'est aussi, en elle-même, l'analyse a un effet dissolvant sur les absolus, sur le sacré. Le nom de Dieu, en analyse, c'est un mot. Et il s'agit de savoir ce qui lui donne sens pour vous et sur quoi vous allez trébucher. Sur le fait que c'est une expérience de jouissance qui donne son sens au mot qui compte pour vous. D'où, inévitablement, un effet de désacralisation. Alors, la question se pose, savoir si derrière cette dictature du relativisme, il n'y aurait pas, en fait, un nouvel absolu que la psychanalyse aurait installé sans le savoir, sans le vouloir, l'absolu de la jouissance. Et d'ailleurs, on a donné à une époque des mots d'ordre qui faisaient de la jouissance un slogan, jouir sans entrave. Sauf que, au contraire, dans l'analyse, on découvre les entraves de la jouissance. Et d'autant plus probant qu'elles ne sont pas dues à une loi extérieure, mais qu'elles sont internes aux conditions de la jouissance elle-même. La psychanalyse a modifié le bon sens. Ça oui, elle a modifié le sens commun dans une direction qui n'est pas inconnue à l'Église catholique, dans la direction « tout dire fait du bien ». En tout cas, c'est ainsi que la société a interprété la psychanalyse. Avant, il y avait des choses qu'il fallait dire sous aucun prétexte. Avant, c'est-à-dire quand on avait la notion du sacré. Et le sacré comportait qu'il pouvait être offensé par un dire. Et ce qui donnait d'ailleurs au fait de dire toute sa valeur. Si vous disiez, je ne sais pas, crénom de bon Dieu, de bonsoir, ben, il fallait aller vous laver la bouche. Et encore heureux si vous n'aviez pas été entendu, auquel cas il fallait expier ce péché de dire. L'instance de la censure a eu au cours des âges une place fort importante, et Freud lui-même a reconnu cette importance puisque il a fait une place dans sa théorie de la psychanalyse à la notion de censure. Et les écrivains, les penseurs ont toujours eu affaire à ça, quand ça comptait vraiment le dire. On peut même dire que leur partenaire essentiel, c'était la censure. Comment faire pour qu'on ne vous coupe pas la chic, si je puis dire. Un livre a développé ça, qui s'appelle « La persécution et l'art d'écrire », où un érudit nommé Léo Strauss, enfin, considère que de toujours, les penseurs et les écrivains avaient eu affaire à la censure, qu'ils avaient dû toujours apprendre à s'exprimer entre les lignes, et donc il faut donner l'exemple qu'il fallait lire les grands textes comme des messages chiffrés. Socrate, par exemple, en prenait justement trop à son aise avec les mots de la cité, et il mettait ses compatriotes en contradiction avec eux-mêmes, en les obligeant à s'expliquer sur leurs valeurs absolues. C'était une sorte de précurseur de la psychanalyse, et comme on sait, ça a très mal fini pour lui. Alors après, bien après, il y a eu la réforme, qui a certes donné naissance à de grands censeurs, mais dans l'ensemble, elle a tout de même travaillé dans le sens de la tolérance, des droits de la conscience individuelle. Encore après, il y a eu les États-Unis d'Amérique, une nation fondée par des persécutés, et ils ont pris certaines précautions constitutionnelles contre l'intolérance, et ça a été le germe d'une société inédite. On avait toujours connu des sociétés de répression, de censure, et on trouve dans la Constitution américaine le germe d'une société de permission. Et dans l'ensemble, on peut dire que le tout dire a triomphé dans les sociétés développées, et le comble, c'est aujourd'hui Internet. On peut vraiment dire qu'on va à toute berzingue vers le tout dire. Freud, lui, il est arrivé juste avant, lorsque la société, les sociétés développées vivaient encore dans, un modèle victorien des sociétés dont le pivot restait la répression du dire. Et ça a inspiré Freud. La censure, le refoulement, le retour du refoulé, tout son attirail de concept, il l'a emprunté à ce qui était présent dans la société de son temps. Et lorsque la psychanalyse est apparue dans le monde, elle a conduit à une libération de la parole, de l'écriture, du signifiant. Ça a été le mouvement Dada, ça a été le surréalisme, ça a été James Joyce. Ça a été accueilli aux États-Unis d'Amérique, ça s'est implanté. Il y a eu une mutation en profondeur au cours du XXe siècle, connexe à l'affaiblissement de la présence du sacré. Et le résultat, c'est que la notion des bienfaits du tout dire est entrée dans le sens commun. Et l'Église en avait eu la notion, bien sûr. Pensons, enfin, qu'au XIIIe siècle, on a rendu obligatoire la confession annuelle, et si vous lisez, par exemple, l'ouvrage de Jean Delumeau qui s'appelle « L'aveu et le pardon », vous trouverez des échos de la pratique analytique. Par exemple, quand saint François de Sales conseille d'accueillir les pénitents avec un extrême amour, quand on les entend en confession, et il dit il faut supporter leur rusticité, leur ignorance, leur imbécilité, leur tardiveté et autres imperfections, on croirait lire la description de la science analytique telle que nos collègues américains la font souvent. Et Michel Foucault s'amusait à dire que la psychanalyse, c'est la suite de la confession. Bon. Alors, il y a quand même cette différence que la psychanalyse cultive, il faut le dire, le sentiment de culpabilité. Et c'est même la condition pour s'analyser. Le sujet qui vient seulement en se plaignant des autres, eh bien, il finit par apprendre que c'est sa faute. Et s'il ne passe pas par le moment où c'est sa faute, on ne peut pas, à proprement parler, l'analyser. Alors, il y a des sujets pour qui ça n'est jamais leur faute. Ça arrive. C'est même ce que Lacan appelait les canailles. Et il disait, les canailles, il vaut mieux les écarter de la pratique analytique. Mais il faut aussi reconnaître que le seul fait de parler et d'être écouté a un effet automatique d'absolution. C'est-à-dire, d'abord le sentiment de culpabilité qu'il faut, mais ensuite, en effet, un allègement, parce que le seul fait de parler et d'être écouté satisfait un désir de reconnaissance, dont on pouvait même penser, enfin, que c'est un désir fondamental de l'être humain. Et il y a d'ailleurs des philosophes aujourd'hui qui essayent de fignoler des utopies de société où on pourrait satisfaire le désir de reconnaissance de tout le monde. C'est-à-dire, on peut pas tout vous donner, mais on peut vous écouter. Et ça part de l'idée qu'il faut que ça puisse se dire, et que si ça se dit, ça fera du bien. La revendication, par exemple, si elle peut pas se dire, elle s'aigrit, il faut lui faciliter de se dire. Par exemple, il y a aujourd'hui, dans les entreprises, des gens, des manipulateurs de la parole qui conseillent qu'on écoute bien tout le monde, parce que le seul fait d'écouter, déjà, ça calme les revendications. Et d'ailleurs, tous les peuples ont voulu des parlements. Et qu'est-ce que c'est un parlement ? C'est un endroit où on parle. Et on peut dire que la démocratie qui connaît un élan extraordinaire à travers le monde ces temps-ci, en un sens, la démocratie, c'est une forme de psychothérapie sociale. En démocratie, chacun dit son mot, même si c'est réduit à un bulletin de vote, à oui ou non. Et puis, hop, après, tout est dit. On peut pas se plaindre du résultat. Enfin, soi-disant, bien sûr. La démocratie fait partie du sens commun de notre époque. Comme la psychothérapie, comme la liberté d'expression. C'est le complexe du tout dire. Dire à tire-larigot, dire à la va comme je te pousse, dire jusqu'à plus soif. Alors, évidemment, on se demande, peut-on vraiment tout dire ? Parfois, il y a des lois pour indiquer que on ne peut pas aller jusque-là. Mais il y en a toujours, alors, pour penser qu'on contrarie le mouvement fondamental, le mouvement social fondamental vers le tout dire. Et on a aussi, parfois, le sentiment que ça devient pire quand on interdit de dire. Et que c'est comme une infraction avec la logique qui emporte nos sociétés. Et ça, si l'on veut, c'est le triomphe de Freud. Le paradoxe, c'est que c'est en même temps une défaite. Parce que le résultat de ce nouveau tout dire dans la société, c'est que le champ du langage en est comme détrempé. Et alors que le tout dire dans la psychanalyse consiste à mettre à distance le sens commun pour chercher votre sens joui le plus particulier, le tout dire social finit par consolider un sens commun, un usage normal. Et par là, la psychanalyse se trouve rongée par le tout dire auquel elle a elle-même donné naissance. Alors, pourtant, même si l'on croit que, allez, on va tout dire et ça s'arrange, il y a néanmoins, et c'est à ça qu'on accède dans la psychanalyse, il y a néanmoins quelque chose qui ne s'arrange jamais. Et c'est quelque chose qui a à faire avec la sexualité. Quelque chose dans la sexualité de l'espèce humaine ne s'arrange jamais. Et c'est là-dessus que se fonde l'espoir qu'on peut avoir pour la psychanalyse, n'est-ce pas? Ça ne s'arrange pas, alors évidemment après, on a à s'arranger avec ce qui ne s'arrange pas.
Histoire de psychanalyse par Jacques-Alain Miller. Réalisation Christine Berlamont, Éric Boisset. Demain, la solitude de la jouissance.